certainement partiellement rester dans ce sujet et puis dans bien d'autres, puisqu'on va attaquer la table ronde des donneurs d'ordre. Je vais demander à Jean-Christophe Alvergne, Daniel Weber et Jean-Pascal Martin-Festa de me rejoindre. Vous pouvez les applaudir, venez me rejoindre, vous installer sur scène. Je crois qu'on a un siège de trop, je peux peut-être... Alors, je vais faire un petit tour de table des présentations, puis vous compléterez, si vous voulez. Jean-Christophe Alvergne, merci de nous rejoindre. Vous êtes directeur des achats dans le secteur des cosmétiques.
Oui,
oui, normalement, ça doit marcher. Quand vous parlez dedans, est-ce que ça marche, Pierre ?
Pas sûr, oui.
Oui, ça y est, on vous entend.
Oui, bonjour. Donc, Jean-Christophe Alvergne, je m'occupe des achats indirects d'un groupe de retail dans les cosmétiques.
Très bien. Jean-Pascal Martin-Festa, directeur des achats Rémy Cointreau.
Oui, bonjour à tous, Jean-Pascal Martin-Festa. Effectivement, je suis directeur des achats dans un groupe de vins et spiritueux et qui comprend donc les achats assez divers de packaging, mais également d'ingrédients et de prestations de services globalement.
Voilà, et Daniel Weber qui est intervenant dans l'école de Gordon Crichton qui forme les acheteurs.
Qui déforme les acheteurs.
Ben ça, vous nous en parlerez. Ce ne sont plus les mêmes acheteurs aujourd'hui qu'hier. C'est peut-être une partie du souci. Une grande expérience auparavant dans le textile, l'automobile, achat direct et indirect.
Tout à fait. J'ai passé une grande partie de ma carrière dans l'industrie textile d'abord, dans la filière amont de l'habillement. Ensuite, j'ai fini ma seconde partie de carrière dans l'automobile, en achat direct d'abord, et finalement en achat indirect dans un... Un groupe que vous connaissez peut-être, qui est un grand équipementier automobile, qui s'appelle Faurecia, Forvia maintenant. Voilà, vous voyez que j'ai quitté il y a 2 ans pour une retraite active avec Gordon au sein de la formation du MAI.
Voilà, retraite mais active, puisque vous êtes là avec nous aujourd'hui. Alors, on va évidemment reparler de la crise énergétique, mais je voudrais déjà qu'on fasse un pas en arrière, parce que c'est pas tout à fait terminé quand même l'histoire, même si on a un peu le sentiment quand on se retrouve comme ça que c'est derrière, ça l'est pas tout à fait. Le Covid, comment on se sort de cette crise qui a concerné notamment l'approvisionnement ? Qui veut me répondre et qui veut dire en quoi ça a modifié la façon d'acheter, les achats. Alors, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? On devait avoir une intervenante supplémentaire, hein, d'ailleurs, qui est chez elle, du coup.
Oui, effectivement, il y a justement la crise Covid qui a frappé un petit peu les équipes. Juste peut-être un mot. Bon, d'abord, sur le métier d'acheteur, qui a vraiment considérablement évolué, on a dû prendre en compte des paramètres qu'on n'avait pas l'habitude de prendre jusqu'à maintenant. Depuis la crise Covid... on a eu un focus particulier et une communication qui s'est établie avec nos fournisseurs autour des problématiques finalement d'approvisionnement, plus que le métier classique de mise en place de contrats, de recherche et développement, d'innovation, etc. Donc il y a eu un focus vraiment très très fort qui s'est mis en place sur ces thématiques. La difficulté qu'on a rencontrée après la période un peu d'inconnu, parce qu'on ne savait pas trop où on allait, même commercialement, sur nos marchés, on ne connaissait pas trop la durée de la crise et son intensité. Donc on a essayé d'abord tisser des liens très forts avec nos partenaires pour essayer de comprendre quelle était leur santé financière et comment ça allait de leur côté. On a essayé également très rapidement de se projeter sur le rebond qui allait venir après, qu'on a très vite senti quand même. Donc on a essayé de continuer d'avoir des liens forts, de continuer également pour certains qui étaient déjà un peu en difficulté à continuer une relation d'affaires. Donc on a pris des risques, on a constitué également des stocks pour certaines matières qui sont vraiment critiques et on a préparé ce rebond. Mmh. Donc là, le principal point peut-être, ça a été la mise en place de stocks de sécurité.
Oui, parce que le rebond n'a pas réglé les problèmes d'approvisionnement, sauf à changer les méthodes de stockage.
Absolument. Alors... Il y a eu différents leviers qu'on a essayé de développer. Stock de sécurité s'en est un. Stock d'anticipation. C'est vrai qu'on a un métier particulier parce qu'on a une première partie d'année qui est très très forte et ensuite un petit peu plus modéré par la suite. Donc il fallait vraiment, vraiment anticiper. On a également essayé de négocier avec eux et d'anticiper de temps en temps même des augmentations qu'ils nous demandaient hein, pour répondre à des particularités et des crises qu'on pouvait sentir à droite à gauche. Et donc voilà, ça c'était le point numéro un qu'on a pu rencontrer.
Même question de votre côté, comment vous avez traversé la crise Covid, comment vous en sortez?
Alors en fait, la crise Covid, ça a été un détonateur de réflexion pour se dire comment, je pense que tout le monde a été concerné par un sujet qui était l'achat des masques, les fameux masques, où on a passé des heures carrées, des nuits, des journées, des week-ends à essayer de trouver du sourcing, évidemment en Asie, la plupart du temps, principalement en Asie. Donc on s'est dit comment on peut faire sur... Alors nous on achetait quelques produits, notamment du packaging en Chine. Et bien on s'est dit comment on peut faire pour tout relocaliser en Europe, et notamment en France, parce qu'on en avait vraiment assez de dépendre du cargo, du bateau, du port qui tout d'un coup en Chine se mettait en situation de fermeture parce qu'il y avait un cas de Covid sur le port en question. Donc on a passé une année, donc l'année 2021, à réfléchir pour comment on peut faire pour relocaliser un certain nombre de fabrications. Et finalement, aujourd'hui, on est dans un bilan où on n'achète plus rien en Chine, y compris le textile, puisqu'on a aussi des uniformes dans nos boutiques. Donc ces uniformes sont achetés en Europe, un peu en Turquie, mais aussi en Europe. Donc on a vraiment eu cette réflexion et la conséquence, j'allais dire positive, parce que pour moi c'est une conséquence positive, évidemment, a été de revoir notre sourcing et de revoir comment on pouvait faire pour éviter ces fluctuations permanentes. Et c'est d'ailleurs, ça nous a aussi obligés à faire de l'aérien, ce qui n'est pas très écolo aujourd'hui pour transporter des matières peu onéreuses, ce qui est quand même un comble. Donc aujourd'hui, on est vraiment à la fin de ce cycle. Et on est plutôt satisfait d'avoir trouvé quand même dans les différents secteurs, catégories d'achat, des sources plutôt fiables en Europe et en France.
Alors, crise Covid à peine terminée, enfin si on peut dire d'ailleurs, parce que c'est ce qu'on verra dans les mois qui viennent, qu'arrive une autre crise, celle de l'énergie dont on vient de parler. Comment ça peut modifier votre façon de travailler et la manière d'acheter?
Pardon, je vais revenir à la question précédente.
Oui.
La crise Covid a mis en évidence un changement majeur. Et si je peux me permettre une... Vous m'entendez là?
Oui.
Et si je peux me permettre une anecdote, on m'a demandé hier quel était mon métier et je répondais que j'étais acheteur. Et la personne qui me posait la question me dit « Ah, donc vous êtes un requin, un tueur ». Et c'est l'image que nous avons souvent dans les professions, pas seulement dans la vôtre. Or, cette crise Covid a été salutaire dans le fait qu'elle nous a montré de manière évidente que la première mission des achats, c'est pas d'avoir le meilleur prix. À quoi ça vous sert d'avoir un super contrat avec un super prix si le produit qu'on vous livre n'est pas bon, si les délais sont pas les bons, si les quantités sont pas les bonnes, si la quantité n'est pas là? En fait, le premier métier de l'acheteur, c'est pas de baisser les prix. Le premier métier de l'acheteur, c'est d'assurer la disponibilité des produits, de permettre la production, de servir le client. La personne la plus importante dans l'entreprise, c'est le client. Et l'acheteur est au service du client. Et pas du client interne uniquement, du client externe. Et cette crise du Covid a parfaitement mis en évidence que l'essentiel est là et pas au niveau des prix. Bien entendu, le prix reste important. Bien entendu, c'est une clé de compétitivité. Mais à quoi elle sert si on n'a pas de produit?
Et ça, c'est apparu au regard de la crise Covid.
En tout cas, la crise Covid l'a mis en évidence. Je me souviens d'un article dans la presse où un constructeur automobile français, que je ne peux pas citer, qui a un sigle qui ressemble à un lion, me semble-t-il, se plaignait de l'indisponibilité des composants électroniques, de ces fameux chips, comme il les appelle, en disant « c'est quand même scandaleux, on pourrait vendre plein de voitures et on n'en vend pas parce qu'on n'a pas de chips, c'est pas sérieux ». Et dans le même article, il disait « oui, mais en même temps, on reste très ferme sur les prix ». J'ai un peu de mal à comprendre le raisonnement économique qu'il y a derrière. Si moi je vends des chips, je les vends à qui? À celui qui me met la pression sur les prix ou à celui qui accepte que je les lui vende à bon prix? je vais dire avec de la marge, avec de la profitabilité. Il faut bien se mettre dans la tête que quand on est acheteur, ce qui importe, c'est la compréhension du business, et l'important, c'est le business de l'entreprise pour laquelle on travaille. Et le business, c'est sa rentabilité, c'est ce que Gordon vous expliquera tout à l'heure en parlant de big picture, c'est on n'est pas au service des prix, on est au service de la stratégie et de la pérennité des entreprises.
Sur le terrain, vous partagez cette analyse ?
Alors, c'est vrai que la crise Covid, en fait, a mis en lumière... moi, quand j'ai fait le MAI il y a longtemps,
on parlait de marché... Ah, vous sortez de cette école-là ?
Oui, je sors de cette école aussi.
Vous l'avez eu comme prof ou pas ? Non, vous n'y étiez pas, déjà ? Si, déjà ?
Merci. Non, mais, en fait, on parlait de marché acheteur, de marché vendeur. Et je pense qu'aujourd'hui, la crise du Covid, ça a mis en lumière que tout ce qui était marché acheteur, donc qui dit marché acheteur, dit l'acheteur est en position de force vis-à-vis du vendeur. Mais aujourd'hui, vous regardez pratiquement tous les marchés. Daniel, tu me corriges, mais il y a peut-être quelques marchés de matières premières qui restent encore marché acheteur, mais tous les marchés sont passés d'un marché acheteur à un marché vendeur. Donc aujourd'hui, pour compléter ce que disait Daniel, l'acheteur, en fait, il n'est plus en position de force, si on peut dire, comme il a été pendant des années et des années et des années. Donc c'est vrai que le métier est en train de changer, parce que si vous êtes dans une posture jusqu'au boutiste, donc extrêmement ferme sur la partie prix, en plus, les marchés se concentrent, donc vous avez des marchés de plus en plus concentrés, où parfois vous avez face à vous un monopole, un duopole, voire un marché de fournisseurs extrêmement restreint. Donc il faut être malin, il faut écouter ses fournisseurs, il faut regarder ce qui se passe, il faut sourcer différemment. Donc le métier d'acheteur, il est en train d'évoluer excessivement vite. Et en tout cas, l'actualité et l'après-crise du Covid, elle nous pousse à être justement face à ces vieux démons qui nous prêtent une pression qui n'est plus ce qu'elle est. Donc il faut regarder, il faut analyser et surtout il faut écouter ses fournisseurs, regarder ce qui se passe chez nos fournisseurs. Et pour rebondir sur la discussion précédente sur l'énergie, donc bien sûr nous sommes confrontés nous aussi par rapport au surcoût d'énergie, mais vous fournisseurs, fabricants, vous êtes, donc ce qui nous intéresse aussi c'est de voir ce qui se passe chez nos fournisseurs, et si nos fournisseurs ne peuvent pas et ne sont pas en capacité de prendre en compte ces coûts énergétiques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont arrêter leur fabrication, ils ne vont pas nous livrer, ou il va y avoir évidemment des conséquences assez fortes sur les coûts. Donc on est aussi très vigilant par rapport à ce qui se passe chez nos fournisseurs, et les coûts de l'énergie sont aujourd'hui un sujet et extrêmement important. Et quand j'ai entendu votre avocat tout à l'heure, ça m'a fait véritablement bondir de voir dans toute cette... Salam Alec de situation entre l'Europe, Bercy, la Creux. Enfin, je vous souhaite bien, bien du courage. C'est pas un marché facile. Donc, remontez, comme l'a dit votre avocat, tout ce que vous pouvez, parce qu'il faut se battre. Et est-ce qu'on peut ? On essaiera de se battre aussi avec vous, comme on peut.
Voilà, juste un complément. Tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être évoqué et ce qu'a dit Daniel également. Je pense que le métier d'acheteur, il a véritablement évolué. Et. Je pense que ce sur quoi on nous attend véritablement, là où on a une forte valeur ajoutée, c'est la versatilité et l'agilité qu'on a pour s'adapter à chacune des situations. Donc là, la situation ou les situations qu'on a connues, hein, crise Covid, la guerre Ukraine-Russie et puis maintenant la crise énergétique, imposent de voir les choses différemment. Donc les différents critères qui sont pris en compte évoluent et changent. Le critère principal et le focus aujourd'hui, c'est véritablement le sourcing et l'approvisionnement. Donc on doit, et au fait la mission numéro 1 qui nous est confiée, c'est véritablement approvisionner les sites et être en mesure de faire les budgets de l'année que l'on doit faire. Donc ça, c'est vraiment le critère numéro 1. C'est de revoir nos stratégies achats, de revoir les panels fournisseurs, donc les partenaires que l'on a, de renforcer ces partenariats, parce qu'on sait également que les relations au fait que l'on a sont primordiales de façon à sécuriser ces approvisionnements. Il faut, on n'est pas les plus gros, nous, sur notre marché, donc il faut qu'on ait d'autres avantages et on doit faire du marketing vis-à-vis de nos fournisseurs, finalement, pour être attractifs et pour qu'ils aient intérêt à travailler avec nous. Donc voilà, donc, par exemple, pour vous citer un ou deux exemples, on a mis en place des task forces dans différents secteurs, c'est vrai sur la verrerie, qui est extrêmement tendue en ce moment, mais également dans le domaine de l'habillage ou des gift box, hein, des étuis, de façon à véritablement trouver des pistes et du bisourcing ou du multisourcing. Donc Ce que l'on doit, c'est pour une plateforme technique donnée, avoir plusieurs sources d'approvisionnement qui peuvent être locales ou de plus en plus locales, mais pas que. Enfin, quand on dit local, c'est proche de nos sites de production. Donc, comme on est quand même implanté en France, mais également à l'étranger, il faut que ça soit proche de nos sites. Et donc, ça demande finalement aux acheteurs et aux équipes développement une énergie considérable pour développer en un laps de temps très très court des quantités de backup qui reviennent et qui demandent autant de temps finalement que de développer de nouveaux packaging. Voilà. Donc ça, c'était une adaptation inévitable.
Quel conseil vous pouvez donner aux fournisseurs ? Qu'est-ce que vous attendez d'eux précisément ? Qu'est-ce qui pourrait faire que les fournisseurs qui sont dans la salle soient référencés dans vos sociétés ?
Bon, je peux continuer juste pour répondre à cette question. C'est bien sûr, on a des panels fournisseurs, donc on a des stratégies qui sont définies, et ces panels, c'est un nombre de fournisseurs forcément limité. Pour bien connaître et avoir une situation de partenariat, il faut investir beaucoup, il y a des audits, il faut connaître tous les services de l'entreprise, donc ça prend beaucoup de temps, donc on ne peut pas avoir des panels fournisseurs pléthoriques, on n'a juste pas les moyens ou les ressources de faire ça. Donc par contre, il faut toujours laisser une porte ouverte pour pouvoir intégrer dans ces panels de nouveaux entrants.
Mmh. Qui sont et qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y ait un nouvel entrant justement dans cette petite porte entrouverte ?
Alors qu'est-ce qu'il faut qu'il soit en mesure d'amener ? C'est soit un service supplémentaire, soit de l'innovation, soit un avantage en termes de localisation ou de process.
Vous citez pas le prix, c'est vrai.
C'est pas toujours le critère numéro un, ça peut l'être aussi parfois, de temps en temps aussi.
Ça l'est aussi, mais ça l'est plus seulement. Ouais.
Clairement, et bien sûr, comme la période est compliquée et qu'on a des hausses matières énergétiques comme tout le monde, il faut qu'on puisse préserver nos marges et qu'on travaille sur des projets d'analyse de la valeur. Et c'est là où on compte aussi sur nos fournisseurs pour nous aider à améliorer.
Vous disiez localisation, c'est pas forcément en France, c'est près du site.
C'est près du site de bottling, le site d'embouteillage en ce qui nous concerne. Donc voilà, nous en France, c'est principalement Cognac, Angers. Et puis ensuite, il y a des sites à l'étranger, en Écosse, aux États-Unis ou en Grèce. Donc il faut que ça soit proche. En fait, pourquoi proche ? Pour avoir d'abord un impact environnemental limité. Et puis également avoir des lead time qui soient compatibles avec notre gestion des sites. Hein.
Vous parliez d'innovation, ça veut dire que le fournisseur fait force de proposition. Il n'attend pas juste que vous vous disiez un jour, je vais venir passer une commande.
Oui, c'est vrai qu'on doit communiquer avec nos fournisseurs pour qu'ils sachent quelles sont nos attentes, qu'ils connaissent également l'actualité des marques et les directions que l'on prend, notre stratégie RSE par exemple. Il faut qu'ils amènent des propositions qui sont en adéquation avec tout ça. Donc ce n'est pas juste une proposition, c'est une proposition qui est cohérente par rapport à chacune de nos marques qui peut avoir des visions un petit peu différentes.
Même question, vous partagez les mêmes critères ou il y a des spécificités peut-être aussi au secteur ?
Oui, mais je vais rester assez macro. Je rajouterai vraiment le point de la RSE aujourd'hui est un sujet extrêmement important parce que le client final attend... d'un produit, d'un distributeur, une démarche RSE. Et aujourd'hui, il est inconcevable de ne pas avoir dans l'approche client une anticipation sur, par exemple, aujourd'hui, un e-commerçant. Le principal écueil, c'est le vide dans les boîtes e-com. Comment on fait pour réduire le vide dans les boîtes e-com ? Ça, c'est un sujet extrêmement important. Et les remontées clients, vous ne pouvez plus non plus caler votre produit dans des boîtes e-com avec du plastique, c'est plus possible. Donc il y a tout un tas de raisonnements et de démarches qui font que c'est extrêmement important d'avoir de la part des industriels, des fabricants, justement des innovations, mais des innovations qui se tournent de manière très, très évidente vers tout ce qui touche la RSE. Et la RSE, pour moi, c'est devenu un sujet incontournable. Alors, je ne vais pas revenir sur l'avant-Covid, mais ça s'est accéléré vraiment aujourd'hui. Et c'est devenu, dans nos démarches de sourcing, un point crucial. D'où vient le produit, comment il est fabriqué, est-ce qu'il va amener justement un point de différenciation vis-à-vis de nos concurrents, évidemment, si possible, et puis surtout, est-ce qu'il va correspondre aux attentes du consommateur final, et après, qu'est-ce qu'on va en faire ? La gestion du déchet, très très important. J'entendais encore ce matin, il y a toute une démarche sur le recyclage du plastique qui n'est pas si évident que ça en France. Enfin, il y a tout un tas de choses aujourd'hui. On attend en tant que consommateur, utilisateur, de savoir qu'est-ce que va devenir le produit d'emballage qui a été évidemment acheté avec le produit final. Donc c'est extrêmement important. Donc l'économie circulaire, je pense qu'on a des points d'attention à voir. Donc tout ce qui concerne aujourd'hui de la part des fabricants, comment on peut améliorer. Alors il y a des points aussi de la logistique, parce que c'est bien beau de se dire on va faire l'économie circulaire, mais comment on récupère la matière, où on va la porter, quelles sont les filières de recyclage, où ça repart, est-ce que ça peut finalement être réutilisé pour produire du carton, pour produire un certain nombre de produits. Donc c'est aujourd'hui extrêmement important. Donc tous les fabricants, toutes les filières qui ont des démarches propre à démontrer sont les bienvenus, et nous on est très attentifs à toutes ces démarches.
On aurait pu penser que Covid plus crise énergétique, justement, ça bousculerait un peu la démarche RSE et qu'on reviendrait justement à des critères plus basiques, plus économiques. Enfin voilà, c'est donc ça a l'air de vouloir dire que malgré les aléas, enfin c'est le mot est faible, hein, aléas, finalement il y a une démarche qui est enclenchée et que qui va perdurer. Enfin, ouais,
je pense qu'il y a deux choses. Je suis tout à fait d'accord avec tous les enjeux RSE, et je pense qu'on est parti pour 10 ans au moins pour essayer d'optimiser nos packagings. Il y a énormément de travail à faire. Par contre, il y a une vision très court terme où effectivement l'effet de la crise fait qu'on voit par exemple nos verriers switcher d'une énergie gaz à des sources alternatives pour éviter des pénuries. Hein. Ça peut être du gaz naturel liquéfié, mais ça peut être également dans certains cas du fioul, hein. Donc ils réinvestissent dans les énergies du passé plutôt que des énergies du futur, mais ça c'est du court terme pour passer peut-être l'hiver ou l'année prochaine. Et je pense que à plus long terme, il y a encore des projets, et encore hier on nous citait quelques projets de partenaires importants dans des fours du futur qui sont 100% électriques et avec des facteurs d'émissions qui sont finalement réduits de moitié. Donc c'est quand même assez encourageant, en plus de tous les travaux qui sont faits sur l'hydrogène, etc. Donc voilà, il y a effectivement le court terme avec une vision un peu négative et le long terme où on reste sur un train qui est quand même...
C'est ce que vous partagez ?
En fait, la crise...
Il y a un mouvement enclenché ?
La crise, par définition, elle est conjoncturelle.
Ouais. Il y en a une qui succède à l'autre. Alors...
Et la RSE, elle a un aspect qui est d'abord structurel. Structurel, bien entendu, avec ce qu'on entend d'habitude avec la RSE, la responsabilité sociale, etc., etc., et environnementale. Mais dans la partie environnementale, il y a des choses qui sont en train de changer, qui vont avoir un impact direct sur la façon de gérer les achats et de définir les panels. Et en particulier, la neutralité carbone. Je ne sais pas si on est bien au courant de ce qui est en train de se passer, mais la COP21, lors de cet accord, les pays signataires se sont mis d'accord sur le fait d'être neutre en carbone en 2050. Alors 2050, ça peut paraître très loin, mais il y a trois périmètres. Il y a le scope 3, 1, 2, 3. Le scope 3, c'est en particulier tout ce qui est acheté, tout ce qui est en amont du flux de l'entreprise, et puis tout ce qui est en aval. Si on regarde que le scope qui concerne les achats, le scope amont représente dans les entreprises jusqu'à 70% de leurs émissions de carbone. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que 70% des émissions de carbone des entreprises sont achetées, proviennent de l'extérieur. Ça veut dire très clairement que les entreprises vont devoir, dans leurs critères de mise au panel, intégrer ces éléments-là de manière très très rapide. La neutralité carbone sur le scope 3, c'est 2030. Ça concerne toutes les entreprises de plus de 500 salariés. Ce seuil de 500 salariés va être ramené en 2023 ou 2024 à 250 salariés. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que pour être neutre, que j'ai 250 ou 500 salariés, il va falloir que j'achète auprès d'entreprises qui, elles aussi, sont neutres. Si je prends l'exemple d'Eiffage, Eiffage qui est dans le bâtiment, Eiffage, c'est 85% de ses émissions de carbone sont achetées dans le périmètre amont de son processus. Et ça va fondamentalement changer toutes les politiques de mise au panel, tous les critères de sélection de fournisseurs. Et permettez-moi de revenir sur un propos, parce qu'on parle de panel à tout va. J'entendais Maître Regnault tout à l'heure de parler d'un panel d'entreprise, etc. Mais il faut bien se mettre d'accord sur ce que c'est qu'un panel. Quand on parle de panel en marketing, tout le monde comprend bien, c'est un échantillon de clients, etc., etc. Quand on parle de panel d'achat, ce n'est pas un échantillon de fournisseurs. Quand on parle de panel, ce sont des gens qui répondent à des critères préétablis de l'entreprise, définis en fonction de la stratégie, de la vision de l'entreprise, et ce sont des gens qui ont été choisis par l'entreprise. il y a 5 personnes devant nous ici. Si je dois faire un panel parmi vous 5, je vais vous dire, madame, vous faites partie du panel, mais messieurs, vous n'en faites pas partie. À un moment, je fais un choix.
Comme par hasard.
Oui, c'est pas le fait du hasard. Je fais un choix. Et quand je fais ce choix, je dois être clair sur pourquoi je fais ce choix, qu'est-ce qui fait que je retienne un fournisseur. Et ce qui a été dit est extrêmement important. Parce que l'aspect prix, c'est une conséquence du passé, quelque part. La construction d'un panel, c'est comment je bâtis l'avenir de mon entreprise dans la perspective de la réalisation des objectifs stratégiques et comment je trouve les bons partenaires qui vont me permettre d'atteindre ces objectifs stratégiques. Donc, qui ont bien entendu, qui soient compétitifs, mais qui aient la création de nouveautés, d'innovations, qui m'apportent la sécurité, qui m'apportent la disponibilité, qui m'apportent de la flexibilité. Aujourd'hui, l'agilité est un mot extrêmement important dans la réussite des entreprises. Ne pas avoir de stock, avoir des marchandises quand j'en ai besoin, pouvoir ne pas en avoir quand je n'en ai pas besoin. Eh bien, tout ça, ça rapporte beaucoup d'argent. Donc, cette notion de panel est complètement en train de changer. Si on revient à la période avant Covid, c'était beaucoup le prix. Depuis le Covid, c'est beaucoup la disponibilité, la flexibilité, l'adaptabilité, mais aussi demain, les aspects de décarbonation qui vont être essentiels. Et je ne suis pas persuadé que tout le monde ait bien compris cela aujourd'hui.
Monsieur Alvergne.
Oui, pour compléter ce que vient de dire Daniel, en fait, c'est vrai que je vais vous donner un scoop. En fait, un acheteur, qu'est-ce qu'il regarde? Bien sûr, on l'a dit, le prix. Et en fait, sa compétence, j'allais dire, sa performance achat est souvent mesurée par ce qu'on appelle du savings, donc des économies achat. Bon, ça, classique. Mais je pense qu'aujourd'hui et demain, on va regarder aussi ce qu'il va faire en termes d'économie carbone. Et on va mesurer aussi sa performance par rapport à ce qui va amener à l'entreprise, ne serait-ce que par rapport au BTP, puisque tu as cité, c'est un exemple important, mais même dans tous les secteurs, on a aussi des objectifs, on fait partie d'un groupe, donc on a aussi des objectifs de décarbonation, donc c'est extrêmement important, et je pense que la performance achat va bien sûr être encore financière, mais de plus en plus va être aussi sur ces aspects. Et d'ailleurs, ça amène aussi une problématique, c'est comment on le mesure, comment on le suit, etc. Mais bref, en tout cas, c'est en train de changer. Et dans notre propre communication interne aujourd'hui, de plus en plus sur nos projets, on va présenter un projet par rapport à éventuellement une économie achat, mais pas que. Et on va de plus en plus montrer, tout à l'heure je parlais des choix d'emballage par exemple, ou de gestion des déchets, donc ça fait partie aussi des évolutions et ça c'est aussi important de le souligner.
Dans l'achat des étiquettes, l'un et l'autre, concrètement, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui et quelles pourraient être les étiquettes idéales de demain ?
Alors, juste une réflexion sur la partie effectivement étiquette. Une fois encore, je regrette que l'acheteur leader Rémy Cointreau n'ait pu participer aujourd'hui pour raison de Covid, mais il y a un sujet qui me semble assez pertinent, c'est qu'on a souvent comme interlocuteur les transformateurs, les imprimeurs, et qui nous livrent les étiquettes. Par contre, on a ponctuellement des contacts avec les adhésiveurs ou des gens en amont ou les gens qui fabriquent les encres, etc. Et je pense que un point d'amélioration, ça serait d'organiser des réunions tripartites de façon à avoir le meilleur bénéfice de ce que chacun des acteurs de la filière peuvent apporter. Et voilà, donc ça arrive ponctuellement. Malheureusement, ça arrive quand il y a des problèmes qualité et qu'il faut résoudre ces problèmes-là. Mais on aimerait que ça soit plutôt en amont pour essayer de trouver des solutions ensemble.
Et si on rentre un peu plus dans le concret, alors c'est vrai qu'elle n'est pas là, votre collègue, mais couleur, graphisme, comment vous voyez l'évolution ?
Alors, l'évolution, c'est difficile de résumer ça parce que à chaque fois, j'essaie de faire des parallèles avec chacune des marques et les choses sont différentes. Mais effectivement, il y a des liens avec des sujets RSE. Il peut y avoir des sujets qui sont assez intéressants dans notre activité pour substituer, par exemple, des décors de bouteilles par des no label look, des étiquettes adhésives. Hein. Donc ça, c'est des sujets. Il peut y avoir parfois, alors ça reste ponctuel et ça dépend des marques, hein, mais il peut y avoir également l'incorporation parfois de coproduits, c'est des choses qu'on retrouve sur des habillages ou qu'on retrouve sur les systèmes de bouchage. Et puis ensuite, il y a des aspects également d'efficience industrielle pour que les choses se passent bien. Hein. Je rebondis sur un des éléments tout à l'heure qui me semblait important, qui est la création de valeur. Nous, on nous attend à achat pour créer de la valeur. Effectivement, également, les équipes achats, ce n'est pas elles qui, in fine, prennent les décisions. Hein. c'est au fait, on est le relais ou l'interlocuteur ou le one-stop shop, je ne sais pas, mais de vis-à-vis de nos partenaires et des fournisseurs. Et on est finalement le relais de la position de l'entreprise. Donc c'est tout le temps multi-critères et on prend des décisions systématiquement avec les industriels, les gens de la qualité, les gens de développement, les achats bien sûr. Donc voilà, c'est toujours des décisions avec beaucoup d'acteurs.
Même question pour vous dans le secteur des cosmétiques.
Alors oui, mais moi je suis sur les indirects, donc votre question est assez limitée pour moi. Nous, on achète des étiquettes, mais c'est uniquement dans le cadre de la supply, donc des process de supply. Donc ce que je dirais, c'est d'ailleurs, on travaille avec un des partenaires.
Ah, Gordon.
Il y a le décor qui. Ça va ?
Ça va, Gordon.
L'essentiel est que tout aille bien.
Ça va. Oui, parce qu'il intervient après.
C'est, ce que vous dites est renversant. Hein.
C'est renversant. C'est ça. Je ne sais pas ce que j'ai dit, Gordon, qui t'a... Excuse-moi. Donc, je disais, oui, on travaille avec un de vos partenaires qui doit être dans la salle. Donc, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Nous, ce qui compte, c'est d'être... d'avoir parce qu'évidemment, il y a toute une chaîne logistique derrière. Donc, c'est la disponibilité. Et peut-être un point aussi où... on a des points d'amélioration, c'est aussi rechercher peut-être un peu plus d'innovation, parce que je sais qu'on fait un retraitement un peu manuel de ce type d'étiquette, donc ça pourrait certainement être amélioré. Mais bon, je ne veux pas m'étendre.
Daniel, qu'est-ce que vous voyez dans le secteur des étiquettes, vous ?
Eh bien, moi, je vais vous retourner la question. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer ? En fait...
Ils ont plein de choses. Hein.
Alors, justement, et quand je regarde ce qui se passe dans... Pardon, je vais vous parler d'un secteur qui n'est pas le vôtre, celui de l'automobile, mais nous avons mis en place récemment, maintenant, des acheteurs chargés de l'innovation, chargés de chercher les nouvelles idées, les nouveaux concepts, qu'est-ce qui va nous permettre de nous différencier. Et entre nous, qu'est-ce qu'il y a de plus différenciant entre un produit et un autre, sinon l'étiquette et ce qu'il y a sur l'étiquette. Donc la balle est plutôt chez vous, en venant nous dire, mais... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter ? Qu'est-ce que vous allez nous donner qui va nous permettre de nous différencier ? Quelque part, vendez-nous vos produits et nous les achèterons. Mais vendez-les-nous.
J'ai également une piste qui me vient à l'esprit, c'est qu'on essaie, dans la mesure du possible, de limiter les emballages secondaires pour des raisons RSE. Donc c'est vrai que le gain le plus facile, c'est d'acheter moins et de limiter... les gift box et les présentations promotionnelles uniquement aux occasions de gifting, de cadeaux. Donc globalement, sur l'ensemble de nos marques, on essaie de limiter ça. Et donc ça ouvre aussi une opportunité, parce que finalement, c'est nos bouteilles qui seront visibles en linéaire et également les étiquettes. Donc voilà, c'est aussi, ça permet de rendre vos produits et vos fabrications un peu plus visibles. Et puis une autre piste également, on essaie d'être assez transparent dans la communication. J'ai en tête par exemple le packaging récent qu'on a lancé pour Champagne Telmont, où on communique énormément sur l'étiquette. Donc l'étiquette a un côté, voilà, c'est un papier, un support, c'est un white cotton plus pour ceux qui connaissent, mais bon voilà, donc un support qui amène de la matière et qui rejoint un peu les codes du champagne et de l'aspect crayeux. Et puis d'un autre côté, il y a énormément de communication qui est faite, où on connaît les assemblages, l'origine, la date de dégorgement et beaucoup d'autres éléments, le dosage en sucre. Donc ça devient véritablement un élément de communication avec le client final. Donc voilà, ça c'est aussi une piste à travailler, la matière, la mise en avant des produits et la transparence.
Acheteur et un peu vendeur à la fois quand même, hein.
Un petit peu, oui.
Pardon, il ne faut pas s'y tromper, l'acheteur c'est d'abord un vendeur, c'est votre vendeur au sein de l'entreprise.
Et oui. Alors, on va leur donner la parole, évidemment, pour qu'ils puissent vous poser des questions. Il y a un petit truc qu'on n'a pas abordé. Je voulais que vous nous racontiez l'histoire du blé avec McDo et la façon d'anticiper les crises.
Oui,
parce que ça, c'est vraiment...
Nous avons eu avec Gordon, au mois de mai dernier, une discussion avec le patron des achats de McDonald's, qui est une marque que personne ne connaît, et qui a une image de malbouffe assez bien établie, quand même. Et ce patron des achats nous dit... alors nous lui posions la question de l'approvisionnement et de ses achats de céréales et en particulier de blé lié à la crise en Ukraine. Beaucoup de blé est produit en Ukraine, c'est un des premiers producteurs européens et il y a donc eu une inflation extrêmement importante sur les prix, sur les cours du blé. Et on lui dit mais comment est-ce que tu gères ça ? Et il me dit mais moi j'ai pas de problème. Et là on est un peu surpris, et regarde, on lui dit comment ça t'as pas de problème ? Tout le monde a des problèmes. Il dit non, nous on n'a pas de problème. Je m'explique nous ce que tu fais. Et alors il nous dit la chose suivante. Il dit, nous avons des partenariats de très longue date avec des céréaliers, principalement en France avec des céréaliers français, qui garantissent à ces céréaliers des prix légèrement supérieurs au prix de marché quand les prix sont bas, et où eux nous garantissent des prix légèrement inférieurs au prix de marché quand les prix sont élevés. Comme on a suivi ces gens-là dans les périodes de crise, dans les périodes où les volumes ne s'écoulaient pas, où les prix étaient très bas, eh bien aujourd'hui, première chose, nous disposons des marchandises. Deuxième chose, on n'a pas l'inflation sur les prix qui est observée ailleurs. Et venant de la part de McDonald's, j'ai été extrêmement surpris parce que je ne connais pas beaucoup d'exemples dans l'industrie où, comme nous l'a dit McDonald's, leurs contrats sont des contrats qui durent depuis 20 ans. Donc il y a là aussi une vision un peu différente de la relation acheteur-fournisseur envisagée et à ne pas oublier lorsque la crise sera passée, parce que nos mémoires sont souvent courtes.
Alors, on va vous donner la parole si vous voulez poser des questions. Je vais descendre peut-être, il y aura un micro de plus comme ça dans la salle. Hop. Alors, des questions pour nos invités ou...
Questions ? Pas de questions ? Bonjour, j'ai juste une question qui revient souvent. C'est aujourd'hui, donc, effectivement, on a vu plus 14% sur les chiffres en volume ou en valeur. Tout le monde parle un trou va arriver, enfin un petit flop au niveau de la demande. Est-ce que vous, en tant qu'acheteur, vous avez une idée sur la date de ce flop ? Quand la demande va cesser ?
Ok, bon. Je vais essayer de répondre avec la vision que j'ai aujourd'hui, mais c'est vrai que la période est quand même assez perturbée, donc c'est quand même très difficile de se projeter. Donc là, nous, en ce qui nous concerne, on prépare le budget pour l'année fiscale prochaine. Notre année fiscale commence au 1er avril et c'est vrai que c'est quand même particulièrement difficile. Ce que l'on voit sur les marchés aujourd'hui, donc là c'est dans notre domaine hein, précisément, des spiritueux haut de gamme, on a une tendance qui est quand même très bonne actuellement. Cette année va être très bonne, tirée principalement par les États-Unis, par la consommation à la maison et également la réouverture de tout ce qu'on appelle le on-trade. Donc voilà, la tendance est très très bonne. On a pas mal de marques qui sont contraintes en termes de volume parce que c'est des produits qui sont vieillis. C'est le cas du cognac et c'est le cas de bon nombre de nos produits. C'est vrai pour le rhum, c'est vrai pour le champagne également. Et donc il y a finalement deux marques dans notre environnement qui peuvent encore absorber des potentiels de croissance importantes. C'est Botaniste et c'est Cointreau, pour lesquels il n'y a pas de vieillissement. Donc le gin et le Cointreau. Donc voilà, donc là il y a un rebond qui est assez spectaculaire. Les États-Unis représentent environ un peu plus de 50% de nos ventes et continuent à être en forte croissance. En ce qui nous concerne, c'est un export pour l'ensemble de nos marques à 98%. Hein. L'Europe est plutôt bien orientée. Bien sûr, il y a des cas très différents. Hein. Si je prends la marque Metaxa, qui est un brandy qui est assez fort dans les pays du sud et de l'est de l'Europe, mais sur lesquels on avait aussi des axes de développement en Ukraine et en Russie. Là, vous voyez que forcément, ça va être contrasté. Et puis, l'Asie, c'est un peu difficile, parce qu'à l'heure où on se parle, je crois qu'il y a encore 80 ou 100 millions de Chinois qui sont confinés. Et puis, ça change d'une ville à l'autre. Donc, en ce qui nous concerne, les zones de consommation, c'est plutôt le sud et le sud-est de la Chine. Donc, pour le moment, ça va. Mais on attend surtout les élections du 16 octobre pour voir ce que ça va donner. Donc voilà, au global, on est très satisfait de l'année et on a quand même beaucoup de questions pour l'année prochaine, à la fois à cause de la hausse des tarifs et de la capacité à répercuter les prix sur nos marchés. Et puis deuxièmement, la géopolitique fait qu'on n'y voit pas très clair.
Vous voulez ajouter quelque chose, l'un ou l'autre ? Non, c'est Daniel, non ?
Ma boule de cristal vaut la vôtre.
Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non ?
On a souvent des profils d'acheteurs qui parfois nous expliquent qu'ils souhaitent sécuriser leurs achats. Donc je ne parle pas spécifiquement de l'étiquette Allez-y, mais d'autres par rapport à d'autres fournisseurs. Donc des acheteurs qui souhaitent sécuriser avec une multitude de fournisseurs, enfin plusieurs fournisseurs, et parfois des acheteurs qui n'ont qu'un seul fournisseur et qui sécurisent avec un partenariat, on va dire, plus construit. Comment vous voyez les choses dans ce panel, dans votre panel de trois acheteurs différents par rapport à ce que vous avez pu connaître par le passé et comment vous voyez les choses aujourd'hui avec les différentes crises? Donc sécuriser avec plusieurs fournisseurs ou sécuriser avec un seul fournisseur?
En fait, la question que vous posez, c'est faut-il sécuriser ou faut-il massifier ou faut-il faire les deux? Et en fait, mon expérience, c'est qu'on peut sécuriser en massifiant avec un fournisseur pour peu qu'on trouve le bon. Mais c'est bien les deux aspects qu'il faut traiter. Pourquoi massifier? Eh bien parce que si je vous connais, qu'on travaille ensemble depuis longtemps, vous serez plus enclin à me faire part de vos innovations, on arrivera à mieux coopérer, j'aurai une part plus importante de votre chiffre d'affaires, on aura une relation peut-être plus équilibrée. Donc plutôt que de diluer et disperser mon pouvoir d'achat, je préfère le concentrer. Je vais le concentrer jusqu'à, dans certains cas, et beaucoup d'acheteurs ne pensent pas cela, jusqu'à constituer un monopole de fait avec un accord de partenariat. Maintenant,
C'est pas ce qu'on appelle mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est
exactement ça,
voilà, c'est ça.
Mais mettre tous ses œufs dans le bon panier, dans le même panier, si c'est le bon panier, c'est pas grave. La question, c'est est-ce que
risqué,
c'est le bon,
quand même.
Est-ce que c'est le bon panier? Et la solution par rapport à cela, c'est de dire, ben, on peut sécuriser en même temps en ayant une part du business importante avec un partenaire et une part peut-être moins importante avec quelqu'un d'autre. En fait, on va parler de, si je reprends une expression populaire, on va garder un fer au feu ailleurs pour les cas où les choses iraient mal. Mais attention, il s'agit de ne pas se disperser, de ne pas diluer son pouvoir d'achat. Je préfère représenter 20% de votre chiffre d'affaires que 3% chez chacun des personnes du premier rang. Est-ce que je réponds à votre question?
Dans les faits, sur le terrain,
En fait, ça va dépendre effectivement du... Est-ce que ce sont des achats stratégiques ou pas? Et quelle est l'importance du type d'achat dans le business de votre client? Donc je suis assez d'accord avec Daniel. Après, moi je dirais c'est vraiment très 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 dépendant de l'environnement. Donc oui, on peut massifier en gérant une relation privilégiée. L'exemple de McDo était assez intéressant parce que alors ils en ont certainement plusieurs céréaliers évidemment, mais ils entretiennent une relation de long terme, donc c'est aussi possible. C'est vraiment, il y a pas de recette magique. Enfin, je dirais, c'est vraiment. On peut s'adapter et on doit s'adapter. Et ce qui compte, je pense, c'est que le terme aussi qui est toujours utilisé un peu, le partenariat. Oui. C'est important de parler avec son fournisseur, de parler souvent avec son fournisseur, de comprendre son fournisseur et de faire en sorte qu'il y ait un bon dialogue pour être sûr qu'on est en phase et qu'on se comprend bien. Et parfois, quel que soit l'historique de la relation, on découvre qu'on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde et que ça pose aussi des problèmes, quel que soit le poids qu'on a par rapport à ce fournisseur en question. Je ne sais pas si je suis clair. Mais en tout cas, c'est pour moi une stratégie de relation à moyen et long terme, c'est aussi important. Et il faut la maintenir, l'entretenir. Voilà, c'est un peu comme dans un couple.
Pourquoi vous faites la grimace?
Non, je sais pas. Non, parce que parfois quand je dis ça, non, mais c'est un peu comme dans. Il y a des hauts et des bas, évidemment. C'est compliqué, évidemment. Donc c'est vraiment important. Le dialogue est super important. Donc l'acheteur et l'entreprise en question doivent se parler régulièrement. C'est vraiment hyper hyper important de se dire les choses et pas de se cacher les choses aussi vice versa, parce qu'il n'y a rien de pire que pour un acheteur de découvrir par exemple qu'un fournisseur lui a pas tout dit, c'est aussi frustrant pour l'acheteur.
Relation de confiance.
Oui, c'est exactement ça, c'est la relation de confiance. et ça met du temps. C'est, alors vous allez me dire, ouais, parfois l'acheteur, alors vous pouvez me dire, ouais, vous allez changer les acheteurs tous les 3-4 ans, c'est compliqué. C'est vrai, c'est pas évident aussi pour vous, par rapport à vos interlocuteurs. Donc on essaye de faire en sorte que quand même cette relation elle soit maintenue du mieux possible.
Oui, en complément, juste une chose, c'est que c'est vrai que c'est des éléments qui sont discutés dans des stratégies achats dans chacune des catégories. Donc chaque catégorie est un peu différente. Donc dans certaines catégories, il y a des capex qui sont importants pour dupliquer et avoir vraiment des sécurisations avec plusieurs fournisseurs. Donc voilà, c'est justifié quand c'est effectivement des matières stratégiques ou avec des volumes qui justifient de mettre ça en place. Dans le cas des habillages, des étiquettes, ce que j'ai plutôt en tête, c'est sécurisation avec un imprimeur en général, mais ce que l'on souhaite mettre en place derrière, c'est au moins deux matières actives en fonction des volumes. Donc des fois, ça peut être une matière pour laquelle on va faire un run par an pour être sûr que ça fonctionne. On aime bien la notion de backup actif plutôt que backup inactif. Voilà. Donc ça prend du temps de qualifier, de référencer, mais il faut que ça tourne pour être sûr que toutes les étapes, tous les maillons de la chaîne fonctionnent. Donc voilà.
Autre question? Oui, là-bas. C'est de ton côté, Pierre.
Oui, donc vous parlez effectivement de pouvoir mettre éventuellement deux matières sur un habillage. Vous parlez, quand vous trouvez aujourd'hui des fournisseurs, de regarder l'adaptabilité et la force de proposition de vos fournisseurs. Certains acheteurs ont des cahiers des charges qui sont extrêmement précis, notamment d'un point de vue technique. On a eu énormément de problématiques d'approvisionnement dans la filière, bon, qui se stabilise un petit peu, mais on n'est pas encore revenu à la normale. Est-ce que vous, côté achat, vous avez aussi intégré des notions d'un peu plus de flexibilité par rapport justement à vos cahiers des charges techniques, quand nous, effectivement, si on peut vous proposer de l'adaptabilité, ça nécessite aussi parfois de déroger à certaines de vos contraintes et de vos demandes en cahier des charges.
Alors, difficile de répondre de façon générale, mais c'est vrai que les cahiers des charges et les documents techniques, au fait, c'est plutôt les équipes qualité qui les mettent au point. De temps en temps, on peut discuter dans les discussions qu'on a avec nos imprimeurs, on peut discuter de tel ou tel point en disant voilà. Est-ce qu'il peut y avoir, est-ce qu'on peut réouvrir un peu, est-ce qu'on peut redéfinir les choses? Donc voilà, la porte elle n'est jamais fermée. Il faut bien comprendre ce qui bloque, éventuellement ce qui est faisable et en quoi ça peut amener un avantage par ailleurs. Donc voilà, on peut être amené à avoir ce type de discussion. Voilà, mais bon, on est dans un environnement où on est quand même, on a la volonté et la vision d'être le groupe leader des spiritueux de prestige. Et donc, c'est vrai qu'on est connu pour avoir quand même des process de qualification, d'homologation, et des cahiers des charges, des expressions fonctionnelles qui sont extrêmement, extrêmement complètes. Voilà.
Autre question? Oui.
Oui. Ce n'est pas vraiment une question, mais moi, je trouve la dernière question était super. Parce que, et je pense que Daniel, qui est sur scène, il a beaucoup d'exemples à donner là-dessus parce qu'il fait partie du groupe qu'on appelait PSA. PSA, depuis quelques années, a lancé ce qu'on appelle FUSI. FUSI, F-U-S-I, c'est Functional Spec Initiative. C'est-à-dire, et je crois que j'ai un exemple cet après-midi, c'est qu'il y a des produits ou des simples bouts de caoutchouc de fermeture de porte, de cahier des charges, pesés pour 140 pages. Et chaque fois qu'un nouvel acheteur arrivait, il ajoutait encore 5 pages pour que ça lui appartienne. Et ce qu'ils ont fait dans le groupe PSA, ils ont fait des défis, et c'était des défis d'avoir des cahiers de charges sur 400 composants de moins de 20 pages. Il fallait transformer 120 pages en moins de 20 pages. Et le raisonnement, c'est de donner, comme vous avez dit, de la flexibilité. C'est de dire que voilà comment le fournisseur peut contribuer à ça. Cependant, pour qu'on puisse faire ça, il faut avoir l'acheteur impliqué en amont, avant qu'on a conçu le produit. Et c'est ça toute la difficulté. Sur scène, vous avez 3 directeurs d'achat en train de dire qu'il y a une transformation de dingue, il faut voir les gens qui veulent aller vers les achats. Mais quand on s'appelle L'Oréal, LVMH, Rémy Cointreau, etc., on ne peut pas transformer les achats du jour au lendemain. Le monde en train d'arriver sont des big picture people, avant toute autre chose, qui tissent des liens avec des bureaux d'études, avec des R&D, avec des gens de marketing, et qui représentent l'entreprise. Et pour représenter l'entreprise, donc, si on veut savoir quelle est la valeur que les achats peuvent porter, mais il faut comprendre l'entreprise. Et donc, je pense que la question est super. Je pense que les gens sur scène, je sais que Daniel est largement capable de répondre, mais je pense qu'aussi, là-dedans, il faudrait qu'il y ait des fournisseurs alignés aussi. Et si, parce que moi, je suis là, je vois que vous êtes pour la plupart fournisseurs, soit de grands groupes ou de fournisseurs premier rang, vous êtes en train de dire, mais voilà, trois directeurs d'achat qui me parlent de tout sauf le prix, etc. Mais moi, je n'ai jamais rencontré ces acheteurs-là, parce que les acheteurs que je rencontre quotidiennement, ils ont toujours le bat de baseball. C'est ça. Et c'est qu'on ne change pas des choses comme ça. Mais si vous demandez, on n'a peut-être pas le temps, qu'est-ce qu'eux, ils pensent des commerçants, des commerciaux, des key account managers, mais ils vont vous dire la même chose. C'est ça le problème, c'est que Daniel a parlé de McDonald's qui tisse des liens, et quelqu'un a parlé tout à l'heure de confiance. En anglais, on appelle ça trust. On ne peut pas l'acheter, hein, trust. Ça se gagne. Ça se gagne, et on met normalement des années. On essaie de le faire de façon plus courte, bien entendu, mais you have to develop it, you have to build a relationship. Il y a plein de choses qu'il faut faire avant d'avoir la confiance. Et pour faire ça, ben, il faudrait aussi que les key account managers soient câblés. Il faut qu'ils soient plus big picture. Qui est the end user? Moi, je ne veux pas être critique, surtout que vous êtes tous des fournisseurs, mais moi, je rencontre, moi, je suis très dur avec des acheteurs quand on fait des brainstorm sessions, mais je suis aussi dur avec des fournisseurs parce qu'il y en a trop qui parlent technique à des gens qui ne sont pas techniques. Au lieu de dire qui est le client de mon client, qui est the end user de ce produit et qu'est-ce que je peux lui apporter. Et ça, pour moi, c'est big picture, c'est de comprendre tout et non pas de dire, mais voilà, techniquement, on est à 0,5 qui est beaucoup mieux que le concurrent. Et il se peut que les gens en fassent, mais ils ne connaissent pas le côté technique. Et donc, je pense que, voilà, j'ai répondu peut-être à une question, j'ai bifurqué un peu, mais là-dedans, je pense qu'il y a un changement, et ce changement, quand il s'agit de cahier des charges qui sont beaucoup trop lourds, c'est un super sujet. Et croyez-moi, nous, on est en train de voir des exemples incroyables, non seulement de flexibilité, mais de changement radical, et on va vers ce qu'on appelle des cahiers des charges beaucoup plus fonctionnels. C'est-à-dire, on est en train de dire, voilà, aux fournisseurs, qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce que vous nous proposez? Allez-y.
Bon, vous l'avez reconnu, c'est Gordon Crichton qu'on aura cet après-midi sur scène en intervention de clôture. Je voudrais qu'on remercie Jean-Pascal Martin, Jean-Christophe Alvergne et Daniel Weber. Vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup à vous trois. On va s'accorder une demi-heure de pause et on va se retrouver ici pour vous donner un peu la structure des ateliers, les emplacements, voilà, la piste de route, la feuille de route pour la suite. Une demi-heure de rendez-vous ici.